Vous écoutez
RMC. 20h-22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et les génies Roland Courbis, David Gluzman, Kevin Diaz. Ça, elle est bonne quand même. Bon. Tiens, on avait un débat là sur le Polo qui nous expliquait, notre Polo Breitner, le divorce entre la National Mannschaft et Adidas. Et vous êtes là sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Donc on vous demandait quel était, vous étiez team quoi à niveau équipementier. On a Pony, vous vous souvenez ou pas Pony?
West Ham joue en anglais, Pony. West Ham, ouais, ouais. Tout à fait.
West Ham joue en Pony. On a ballon. Patrick, bien sûr. Patrick.
Est-ce que vous connaissez Mazita?
Ouais, bien sûr.
Mazita.
Bien sûr.
Le club aux Pays-Bas qui joue avec
Mazita. Ah ouais, Mazita. Ah, mais si, il n'y avait pas Cambuur. Non.
Ouais, non. Cambuur.
Si, si. Ah, ouais, ouais, c'est ça, ouais, j'avais vu, je crois.
Fortuna Sittard aussi.
Fortuna Sittard, bien sûr. Excellent. Patrick, Pony, vous êtes là. Puma pour les baskets.
La N7, c'était quand même quelque chose.
Ça, c'était au Serre.
Ouais.
Ouais, c'était au Serre. Il y a des bonnes marques qui ont disparu. Il y avait, comment ça s'appelait il y avait Erea, et attends. Et comment il s'appelait Erea, Erima. Vous vous souvenez d'Erima, ouais, Erima, là, ouais, Marie Allemande, là.
Mais Erea, ça existe encore. C'est l'équipementier de Châteauroux.
Et il faut être très, très beau maillot. J'ai été très surpris. Ouais, ils font des trucs très sympas, Erea.
Il y avait une marque de chaussures de foot qui s'appelle Pantafola. Et Baggio jouait en Pantafola à l'époque. Il y avait Zeno après, mais jouait en Pantafola.
Il y avait Hummel aussi.
Ouais.
Mais d'ailleurs, ils reviennent bien, Hummel.
Pascal Nouma, qui était égérie Hummel en Turquie. Attention.
Très bon, ça.
Kappa.
Kappa, ils reviennent bien aussi.
Très bon. Ils sont jamais dans le game. Ils ont transformé le maillot de foot dans les années 2000.
Castoré,
ouais. Mais d'ailleurs, qui sont pas mal, ils ont pas mal de gros clubs.
Ouais. Il y a eu une polémique sur le maillot Castoré de, je sais pas, Castor ou Castoré sur Aston Villa, avec le format mouillé en fait. Oui, enfin, il y avait un effet mouillé qui était très critiqué d'ailleurs.
Ah bon, pourquoi?
Ouais, parce que ils trouvaient que c'était un peu dégoûtant en fait, que c'était pas très esthétique.
Alors il est 21h04, vous êtes sur RMC. On est en plein débat SAP, excusez-nous. Voilà, le football, c'est aussi les maillots. Je suis désolé. Diadora, ouais, ça revient en force, ouais, aussi, Diadora, les marques vintage. Ouais. Il y a, c'est Bode Glimt, c'est l'un des rares clubs.
Fila aussi.
Fila, ouais. Ils ont
Maccabi Tel Aviv. Ils ont pas Fiorentina.
Ils ont Maccabi Tel Aviv. Non, c'est Lecoq Sportif.
Lecoq Sportif.
Ouais, ouais, qui revient bien.
Qui avait été racheté par le Robert Dreyfus Adidas d'ailleurs à l'époque.
Ah oui.
Ouais.
D'accord. Demain à 7h06 aura débuté déjà le match entre la France et l'Allemagne, match de prépa pour l'Euro 2024. Et on va profiter de cette trêve internationale pour ouvrir un débat sollicité par Kevin Diaz. Avis tranché, Kevin Diaz.
Non, c'est plutôt un joueur qui a égayé sa palette, comme on dit, avec Mourinho.
Élargi peut-être.
Ouais, élargi. Égayé, ça ne dit pas.
Mais tu peux tout dire, t'es dans la métaphore, tu es un poète, Kevin. Alors, les équipes nationales peuvent être des antidotes au foot business. Les sélections sont-elles le dernier bastion du foot vrai? C'est ce que tu veux défendre ce soir, Kevin.
Oui, parce que j'avais eu cette réflexion, notamment sur Twitter après la CAN, où j'avais trouvé que la CAN, en tout cas moi ça m'avait un peu réconcilié avec le foot qu'on aime, c'est-à-dire le foot où il y a un mélange de passion, de folie, d'imprévisibilité, et aussi avec bien sûr ce côté authentique du foot de sélection, même si on a vu aussi, bien sûr, hein, je ne dis pas qu'il y a que c'est le niveau de la Ligue des Champions forcément à chaque Euro ou à chaque Coupe du Monde, mais tu as quand même ce goût du patriotisme de jouer, en tout cas à la CAN, ça se voit d'autant plus, je trouve, de jouer pour le pays, de jouer pour la nation, de jouer pour le peuple, le fameux football du peuple, et c'est vrai que quand il n'y a pas de notion de contrat, il n'y a pas de notion de salaire, alors même s'il y a des primes, mais on sait quand même que les footballeurs professionnels, pour la grande majorité, ne vont pas en sélection pour ça, même si ça peut être bien sûr valorisant, notamment contractuellement, d'être sélectionné notamment pour notre équipe de France. Mais je trouve quand même que, certes, il n'y a pas forcément le même niveau que dans le très très haut niveau que représente la Ligue des Champions, mais en tout cas il y a toujours cette science du maillot quand même, voilà, le maillot orange, le maillot bleu blanc rouge avec le short. D'ailleurs moi ça me chagrinait toujours quand je voyais l'équipe de France qui n'avait pas le short blanc et les chaussettes rouges, parce que ça représente quand même une forme d'authenticité aujourd'hui dans notre football qui est, on va pas se le cacher, quand même un peu gâché ou très très dilué dans ce football business où les valeurs et l'attachement un maillot disparaît de plus en plus, et en tout cas une chose est sûre, c'est qu'un joueur, voilà, il y a que des Steven Gerrard ou des Totti en ce qui concerne la sélection. Tu auras une seule fois un maillot, et alors à part quelques changements sur certaines binationalités si t'as pas joué de match officiel, etc. Mais en tout cas pour la grande majorité, voilà, du début à la fin de leur carrière, ils jouent pour une seule sélection, pour un seul maillot et pour une seule couleur. Et ça, moi, c'est le football que j'aime.
Alors David, est-ce que tu es d'accord avec la vision? On peut le dire, hein. un peu romantique quand même de Kevin sur le football de sélection.
Ouais, ouais, non, mais j'adorerais être d'accord avec Kevin.
Allez, tout mon le banquier est de retour. Allez.
Sling. Voilà. Vision mercantile, financiarisation de la société. Allons-y.
Bah bravo.
J'adorerais être d'accord avec Kevin, mais les récents développements du football de sélection me poussent à être cynique. Je vais prendre l'exemple de l'optimisation du scouting pour certaines sélections en prenant l'exemple du Maroc. Le Maroc a poussé à moderniser son système, à perfectionner son système de scouting de façon tellement fine que maintenant ça se fait au niveau des U15, au niveau des U17. Il y a Hanif Benberken qui a écrit un formidable article dessus. Et en fait, pour éviter pour forcer le choix des bi ou tri nationaux, la détection il y a une détection qui est très organisée, qui se fait par pays, qui se fait par fédération, qui se fait même parfois par quartier, où les potentiels binationaux sont identifiés dès le plus jeune âge, pour éviter justement, en fait, pour les rameuter le plus rapidement possible. Alors, je ne mets pas du tout en doute la sincérité du choix des binationaux qui choisissent de jouer pour le Maroc, mais je trouve que cette industrialisation, qui a ramené des résultats fantastiques. Derrière moi, on peut citer Amine Adli, Sofiane Diop, Ben Seguir, Akomaj, Brahim Diaz, Saïbani, donc énormément de binationaux qui ont choisi de jouer pour le Maroc, mais cette industrialisation du plus jeune âge me fait douter, en fait, du caractère romantique du football de sélection, et c'est pareil, en fait.
Mais pourquoi n'importe quelle sélection commence à repérer les jeunes talents depuis U15 avec les premières sélections U16, U17, etc.
Juste pour rebondir sur ce que dit David, c'est vrai que le sujet de la binationalité, d'ailleurs, qui a été un sujet dans de nombreuses affaires, même parfois d'ailleurs, c'est vrai que ça enlève un peu du romantisme. Aujourd'hui, tu as peut-être des joueurs qui vont choisir une nation plutôt qu'une autre aussi pour des aspects. Ça existe, Kevin, on peut pas le nier.
Pas toi, Nico.
Il y en a qui font des choix de carrière plutôt que des choix de cœur.
À partir du moment où tu as deux nationalités, tu peux jouer pour deux sélections. Quand tu es un joueur professionnel,
tu peux faire un choix qui est plus rationnel que passionnel.
Tu as un milliard de clubs là où tu peux jouer, donc ça n'a rien à voir. Et tu iras sûrement et souvent, malheureusement, au plus offrant. La sélection, ça reste. T'as un papa de tel pays, t'as une maman de tel pays, tu peux jouer dans deux sélections. Ok, tu choisiras peut-être celle avec laquelle t'as plus attachement. Certains vont choisir celle avec laquelle ils ont le plus de chances, peut-être, de remporter un titre.
Bien entendu. Le choix est individuel. Mais ce que je veux dire, c'est la méthode de scouting, en fait, qui est propre au club,
ça ne change pas le fait que de jouer pour ta sélection, une fois que tu l'as choisi, tu iras jusqu'au bout avec elle. Et
pas forcément. Regarde, Amine Gouiri a changé récemment. Amine Adli a changé très récemment. Et moi, c'est l'industrialisation du choix et de la recherche.
Mais ça reste quand même marginal, ça.
Ah bah de bonne
manière.
Les
règlements sont quand même faits de façon à ce que tu puisses changer de nationalité sportive. Qui d'ailleurs n'est pas forcément condamnable en soi.
Mais... D'ailleurs, le règlement est quand même fait pour promouvoir un certain tourisme footballistique, si tu veux.
Non mais d'accord, mais
il est de plus en plus lâche.
En quoi ça remet en cause la différence entre les grandes différences quand même qu'il y a entre le foot business, parce que là on parle pas de business, on parle pas de somme quand tu choisis le Maroc par rapport à un autre pays qui peut être l'Espagne.
T'es plus bankable quand t'es international européen qu'international africain.
Attendez. Donc, si tu fais le choix du Maroc par rapport à l'Espagne, les Pays-Bas, la France, peu importe ta double nationalité, tu ne fais pas un choix pécunier.
Tu peux plus rapidement jouer en Europe.
Oui, mais l'inverse est vrai.
En l'occurrence, cet exemple-là,
tu peux faire aussi un choix indirectement pécunier. Parce que si justement tu restes dans ton pays, tu penses que ça sera. Dans un de tes deux pays, tu penses que ça sera compliqué. Par contre, aller être titulaire dans un pays où tu as plus de chances d'être titulaire, à ce moment-là, ça pourra te faire obtenir une certaine cote, un certain niveau, certaine amélioration, ou tu auras peut-être une meilleure offre
Tu auras de toute façon des avantages, des inconvénients si tu choisis l'une ou l'autre des sélections. Mais le propos et l'avis, il n'est pas de dire qu'il y a une notion sur les binationaux. C'est de dire que lorsque tu regardes une compétition internationale, tu as quand même encore l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que les gars sont là d'abord et surtout pour représenter leur pays, pour représenter un maillot, pour représenter la couleur d'un maillot.
Mais d'ailleurs, et même chez
et
les
ça,
supporters,
c'est quand même beaucoup moins le cas dans le football de club aujourd'hui.
Moi je trouve qu'il n'y a pas plus de passion chez les supporters aussi. Vous ne trouvez pas que... Alors déjà, le fait que forcément les compétitions internationales soient plus rares,
mais bien sûr,
ça fait qu'il y a un espèce d'engouement qui se passe là pendant un mois.
À part pour les ultras, sinon, l'engouement pour la sélection nationale, et on est bien placé pour le savoir, que ce soit dans un pays comme le Portugal, mais même la France, les Pays-Bas, l'Allemagne... C'est très rare de voir ces sélections jouer dans des stades qui sont pas pleins quand même.
Mais Kevin, c'est très bien que tu pointes là. Bah, à laquelle les stades étaient régulièrement vides. Mais après,
excuse-moi, je te coupe.
C'est vrai.
Tu ne peux pas comparer le pouvoir économique et le pouvoir financier d'un habitant qui va être peut-être, je sais pas, moi, peu importe les pays qui pouvaient se rendre à la CAN, avec un Européen et le pouvoir d'achat d'un Européen.
Mais tu parles du foot international en général.
Mais t'inquiète pas que les Africains, s'ils avaient les moyens de se déplacer, ils se déplacerait, c'est pas une question d'engouement, c'est une question économique là.
Bien entendu, mais après en fait tu as parlé de la rareté, et justement pour la rareté, je trouve que dernièrement, il y a la Coupe du Monde U17, on a décidé de la jouer tous les ans au Qatar à 48
équipes. Ça, c'est ridicule.
C'est ridicule. Donc,
pendant
ça participe.
Cinq prochaines éditions, tous les 5 éditions. Ans,
donc, ça participe aussi, quelque part, à la perte de romantisme et à la marchandisation du football de sélection. Parce que le but, qu'est-ce que c'est ? C'est d'une, de favoriser le Qatar, et de deux, de mettre en valeur tous les ans le plus possible du 17 pour justement générer de l'argent. C'est ça que je veux te dire en fait. Donc le foot de nation, moins la rareté, le phénomène rareté...
Ça reste en tout cas pour l'instant encore l'antidote. Pour l'instant.
Un léger antidote en fait, mais se financiarise de plus en plus.
Un vrai antidote. Quand tu vois aujourd'hui que un club comme le Racing Club de Strasbourg n'est que le petit frère de Blouko de Chelsea, ça arrive pas encore au niveau des sélections.
Ça ne peut pas arriver en fait au niveau des sélections.
Mais
le fait est que le foot de sélection s'industrialise et se financiarise de plus en plus, notamment avec la répétition des compétitions, qui sont justement là pour générer du revenu et qui, quitte à nuire à l'intérêt sportif.
Oui, mais ça a toujours...
Comme l'élargissement des compétitions, le fait de qualifier les troisièmes de poule, qui baisse, en fait, qui, pour rajouter un nombre de matchs, au mépris mérite sportif.
Moi, ça je suis
d'accord. Vas-y, on fait une pause après.
La Coupe du Monde qui va arriver bientôt à 80 clubs, à 80 pays, j'exagère bien sûr, mais on n'en est pas loin. Bien sûr que ça, c'est quelque chose qui me plaît moins. Mais après, d'un autre côté, j'entends aussi les arguments de dire que ça permet de développer le football en plus de nations, donc voilà, et qui fait au final monter le niveau global. Et on le voit quand on dit qu'il n'y a plus de petites nations, il y en a quelques-unes, mais il y en a moins en moins.
Les équipes nationales sont-elles l'antidote au foot business? Venez en débattre avec Kevin Diaz, David Guzman, avec Roland Courbis au 32-16. Puis on reviendra également sur la Ligue 1 qui va s'appeler la Ligue 1 McDonald's. Est-ce un signe de vitalité, d'attractivité de notre football, ou cela pose-t-il un problème d'éthique? Et vous allez voir que David et Kevin, notamment, ne sont pas d'accord là-dessus non plus. Allez, à tout de suite sur RMC.
Génération After.